RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont en train de compter les jours avant les grandes vacances qui vont bientôt commencer avec, j'espère pour vous, quelques jours de repos quand même. Mais allons-nous nous multiplier les activités ou bien vraiment nous reposer? Comment faire d'ailleurs pour calmer l'esprit, le corps et la vie sociale? Il y a beaucoup de façons de trouver le repos et nos invités vont nous aider à y voir plus clair ce matin dans Je pense donc j'agis. Et ne vous endormez pas tout de suite car dans la seconde partie de l'émission, on parlera des vertus de la sieste avec notre invité. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus pour participer à l'émission. Est-ce que vous avez des scrupules peut-être à prendre du repos? Et puis dans votre quotidien, arrivez-vous à vous ménager des temps de détente? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour vous vous reposer? Et comment allez-vous vous reposer pendant les vacances? On vous attend à l'antenne pour discuter avec nous au 04 72 38 20 23. C'est Catherine au standard, 04 72 38 20 23. Vos messages par mail direct@rcf.fr et puis toujours dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis sur RCF.
Et je suis presque déjà en vacances puisque c'est la dernière fois que je vais faire une émission avec Madeleine Vatel. Avant les vacances.
Ça commence fort,
Madeleine.
Bonjour. Vous êtes quand même encore en forme alors, ouais. À ce que je vois.
Je donne toute Avant l'énergie. Je donne toute l'énergie. Ça va, Madeleine?
Ça vous va bien. Celui qui ne se repose pas fatigue les autres, mais le cœur le
sait. Sympa.
Bon. Alors, mais oui.
On va se reposer aujourd'hui.
Du coup. On va se reposer, mais on va encore travailler encore ce matin. Écoutez, les discussions autour de vous, je pense que ça ressemble un petit peu à... Oh là là, ce mois de juin, il a jamais été aussi chargé. Oui, vraiment, décidément, c'est très difficile de trouver le repos. Mais alors, pourquoi donc est-ce devenu si compliqué ou plutôt si rare? Et puis, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de repos? Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans l'histoire, on va l'entendre aujourd'hui. On ne se repose pas aujourd'hui comme hier, et pourtant... On verra que ça a changé. On parle même maintenant d'une économie du loisir et de la détente, d'un business du temps. Et puis pour les chrétiens, le repos, c'est bien sûr le repos éternel, mais c'est aussi le jour du dimanche. Alors se reposer, mais en vue de quoi? Autrement dit, est-ce que ce ne serait pas autre chose que dormir, se relaxer, chercher son bien-être? Est-ce qu'il faut voir dans le repos l'occasion de se rapprocher de Dieu? Est-ce que prier... Ça repose? Eh bien, c'est l'une des nombreuses questions que nous allons aborder aujourd'hui.
Avec nos trois invités, Madeleine.
Eh oui, le père Maximilien Lefébure Dubus, il est chanoine à l'abbaye La Grâce, il est auteur de l'éloge spirituel du repos aux éditions Artege, il nous rejoindra au cours de l'émission. Avec nous également Alain Corbin, historien, auteur de Histoire du repos aux éditions Plomb, bonjour.
Bonjour.
Et puis avec nous également François Garde, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes économiste, professeur émérite à Paris 1, chercheur associé à Paris School of Economics, professeur à l'Université catholique de l'Ouest. Et on va commencer avec vous, Alain Corbin. Avant de faire un saut dans l'histoire, on va décrire aujourd'hui ce qui consiste, en quoi consiste la détente, en quoi consiste le repos. Vous écrivez dans votre livre, qui s'appelle Histoire du repos, je le disais tout à l'heure, que notre siècle est celui où le loisir a remplacé le repos. Le loisir occupe le temps du repos, le loisir envahit l'espace du repos. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là?
Non, en fait, ce n'est pas sur cela que j'ai insisté. Hein. J'ai insisté sur le fait que, au cours des siècles, depuis le christianisme, disons, et la Bible, il y a des figures du repos qui n'ont cessé de se modifier, des tactiques et des significations du repos qui n'ont cessé de se modifier, et en ce qui concerne le présent, pareil, je ne suis pas sociologue ni psychologue, alors donc ce n'est pas véritablement mon domaine. Mais il est vrai que durant les années 1950-60, au moment du Sea, Sex and Sun, sur les plages, il y avait un mode de repos qui était tout à fait nouveau, si vous voulez.
Alors, on va y revenir justement sur ces années avec auparavant les congés payés. François Garde, je voudrais que vous nous disiez aujourd'hui comment le repos, à quoi ressemble le repos, et notamment cette question du temps qui l'interroge.
Le repos, c'est donc évidemment du temps. C'est du temps qui peut être
pris sur le loisir, mais qui peut être pris sur d'autres activités. Vous pouvez vous reposer pendant une activité de transport, par exemple, ou même de travail. Pendant une réunion, vous reposez sur un repos court. Donc, ce n'est pas véritablement une catégorie économique, le repos, parce que si on veut le définir par rapport au loisir, si vous voulez, le loisir, il se définit soit comme ce qui reste comme temps, si on parle du temps de loisir, après qu'on ait décompté de l'ensemble du temps de la journée, les temps nécessaires de sommeil, de nourriture, et les temps d'activité et le temps de travail marchant. Donc ensuite, ce qui reste, si vous voulez, quand je parle de temps d'activité, c'est le temps d'alimentation, le temps de transport, le temps d'habillement, etc. Donc ça peut être défini comme ça, le loisir, comme reliquat de ce temps, ou ça peut être défini comme une somme de type de loisir, par exemple, vous regardez la télévision, etc. Alors, dans les enquêtes de budget temps qui sont faites dans tous les pays maintenant, où on interroge les gens sur leur activité, en gros, toutes les 15 minutes, quelquefois toutes les 5 minutes, donc ils ont des grilles, ils indiquent une première activité, par exemple transport, ils peuvent indiquer une activité complémentaire, par exemple lecture ou discussion. Et donc, si vous voulez, on peut pas véritablement repérer le repos, parce que dans ces enquêtes, on repère des activités, par exemple une activité de lecture. Est-ce que l'activité de lecture est du repos ou pas? Si on voulait le définir de manière purement économique, on pourrait se dire le repos, c'est quelque chose qui n'est pas productif. Productif en termes de production actuelle, si vous voulez, qui est soit de la production domestique, par exemple s'occuper des enfants, ça ne sera pas du repos, soit de la production marchande. Mais c'est déjà un petit peu difficile parce que le repos peut être constituant de ressources. Donc il est productif dans un certain sens, puisqu'il vous permet en vous reposant de reconstituer les ressources. Et il peut être productif aussi d'autres choses, par exemple de temps spirituel. Je pense que si on faisait une analyse des expériences spirituelles des gens, du type expérience directe, si vous voulez, ça serait dans des temps de repos longs, c'est-à-dire souvent pendant des vacances. C'est pas pour rien que les pères allaient au désert, c'est parce que le repos long vous met en situation d'avoir des expériences spirituelles. Donc du coup, on peut se dire aussi le repos, il est productif en ce terme-là. Il est productif en termes d'organisation de vous-même, parce que vous reprenez un petit peu les éléments de votre vie actuelle et puis vous la modifiez pendant le repos. Donc c'est très difficile de définir le repos d'un point de vue économique, parce qu'il est finalement aussi productif d'autres choses peut-être que des temps d'activité.
Alors Alain Corbin, justement, vous dans votre ouvrage, à un moment donné, vous accordez un chapitre sur la retraite, le fait justement de se retirer. François Garde évoquait les pères du désert qui s'éloignent. Cette retraite, en quoi elle consistait justement?
Écoutez, moi je crois qu'il faut peut-être partir du repos éternel. Parce que pendant plus de depuis Constantin, 4e siècle après Jésus-Christ, où l'Empire romain se fait chrétien, jusque presque à nos jours, c'est malgré tout le repos éternel qui domine absolument toutes les notions de repos. Le repos, c'était le repos éternel, c'était le repos paradisiaque, c'était le repos qui était lié au salut. Et la grande aventure humaine, c'était d'obtenir son salut pour les théologiens pendant plus de 1000 ans. Donc, si on ne part pas du repos éternel, on ne fait pas de l'histoire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein.
Qu'on attend notre invité, oui. Aussi le père Maximilien Lefébure Dubus, qui viendra justement compléter ce point-là. Mais poursuivez donc ce repos éternel, on part de là.
Oui, on part de là. D'ailleurs, dans les messes de Requiem, là, au moment de la mort, c'est Requiem, le repos. C'est un appel au repos éternel. Moi, d'ailleurs, je suis très frappé par le fait que, jusqu'à maintenant, quand il y a une vedette qui vient de décéder, on l'emmène à l'église pour une messe de Requiem ou pour des prières de Requiem. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui balise tout le temps. Mais je reviens à votre question, le retrait, parce qu'on a parlé de retrait, je pense à Montaigne qui a parlé d'environ 40 pages de ses essais du retrait, c'est ce que nous appelons la retraite, si vous voulez. Il y attache une grande importance parce qu'il dit qu'à partir d'un certain âge, l'homme doit opérer son retrait, son repos. Se forger en repos, quitter l'agitation de la ville, de la cour, et puis se donner ses biens à ses enfants, accepter un petit bien dans lequel méditant, en lisant les livres qu'il aime, en restaurant un petit peu sa maison. Enfin, vous voyez, tous les moralistes du fin 17e et tous les moralistes du 18e ont beaucoup insisté sur l'importance de la retraite, du retrait d'abord et de la retraite, si vous voulez. C'est-à-dire que la vieillesse n'est pas quelque chose de aussi calamiteux qu'on pourrait le penser, et qu'il faut savoir se forger un repos et quitter l'agitation et les ambitions, en quelque sorte, de l'existence.
Est-ce que le repos, ça s'apprend ?
Ça prend.
Est-ce que ça s'apprend ?
J'ai pas bien entendu. Est-ce que ça s'apprend ?
Est-ce que le repos s'apprend ? Est-ce qu'il faut une certaine sagesse pour découvrir ce qu'est véritablement le repos et arriver justement à s'extraire, à quitter l'agitation sans pour autant s'ennuyer ?
Je reviens à la religion, si vous voulez. En même temps que, un peu après exactement, que Montaigne, il y a Pascal, par exemple. Je prendrai cet exemple, hein. Pour lui, le repos, l'homme n'aime pas le repos, parce qu'il n'aime pas se retrouver avec lui-même. C'est pourquoi il se précipite dans l'agitation. C'est un mot absolument essentiel pendant des siècles, hein. Il se précipite dans l'agitation, à la cour, à la ville, etc., pour ne pas se retrouver avec lui-même. Alors que le message de Pascal, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est dans le repos que l'homme se réalise et va vers Dieu, en fait, hein. Mais c'est quelque chose, le repos pascalien, enjoint par Pascal, est une notion qui était très importante et qui, par la suite, a été reprise par certains théologiens par une notion aussi importante qui est la quiétude. On a oublié ce mot quiétude aujourd'hui. On ne parle plus que de son contraire, l'inquiétude. Mais la quiétude, c'était le fait de se retrouver souvent dans la prière, parce que c'est lié au mystique du siècle précédent, c'est-à-dire du 16e siècle, mais c'est se retrouver en état de quiétude. Et il y a eu un grand débat au 17e siècle entre les partisans de la quiétude, du quiétisme, si vous voulez, et au contraire ceux qui trouvaient que, les théologiens qui trouvaient que c'était détestable. C'est l'opposition entre Bossuet et Fénelon, fin du XVIIe siècle. Mais vous voyez, le fait de le repos chrétien, le repos pour fuir l'agitation de la ville, se retrouver dans la quiétude, ce sont des notions absolument essentielles au XVIe, XVIIe siècle.
Et le repos, on continue d'en parler dans cette émission avec vous, Madeleine Vatel, et puis avec nos invités. Et venez participer également à l'émission. Dites-nous un peu si vous avez des scrupules, d'ailleurs, à prendre du repos. C'est vrai que parfois, on peut culpabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vous reposer ? Comment allez-vous vous reposer pendant les vacances ? Et puis dites-nous si dans votre quotidien, vous arrivez vraiment à vous ménager des temps de détente. On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct@rcf.fr et puis dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Toujours avec l'économiste et professeur émérite à Paris, hein, François Garde, et puis l'historien Alain Corbin. Et puis dans quelques minutes, Madeleine nous rejoindra, notre troisième invité, le père Maximilien Lefebvre-Dubus, qui est chanoine à l'abbaye de La Grasse et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'éloge spirituel du repos », sorti aux éditions Arthège. Il sera avec nous depuis Alençon dans quelques minutes. On continue, Madeleine.
Oui, François Garde, je voudrais vous faire réagir justement sur les propos de l'historien Alain Corbin. Il évoquait le fait que c'est compliqué de se retrouver avec soi-même et de trouver ce repos. Le pape François, justement, en septembre 2018, avait aussi, lui, lors d'une audience générale, évoqué cette question du faux repos, du vrai repos. Il avait fait le constat que cette société contemporaine, elle est assoiffée de divertissement et de vacances et que l'industrie de la distraction est très florissante. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, François Garde ?
Écoutez, c'est quelque chose qu'effectivement, les sociologues ont repéré il y a peut-être une vingtaine d'années. C'est ce qu'ils appellent le comportement omnivore, c'est-à-dire que les gens ont multiplié les activités. quelles que soient ces activités, si vous prenez des activités de culture, par exemple, il y a 40 ans, 50 ans, les gens écoutaient du jazz, ou ils écoutaient du classique, ou ils écoutaient des chansons, etc. Mais il est rare qu'ils aient été omnivores de tous les types de musique. Aujourd'hui, au contraire, les gens passent d'une musique à l'autre. Dans le sport, c'est pareil. Les gens allaient pêcher à la ligne, ou ils faisaient du tennis, ou ils faisaient du vélo. Maintenant, ils sont omnisports. Alors, la multiplication des activités, évidemment, entraîne des temps de commutation d'une activité à l'autre, donc déjà des temps perdus, si vous voulez, un petit peu. On se transporte pour aller au cours de tennis, puis on se transporte pour aller au cours de danse, etc. Et puis, donc, du coup, le temps disponible se réduit. Et si le temps disponible se réduit, la valeur du temps augmente. Alors, pour les économistes, il y a deux éléments, si vous voulez, dans le temps. Il y a l'élément temps utile, donc temps productif de quelque chose, productif soit de quelque chose qui est substituable au marché, c'est-à-dire vous pourriez, par exemple, emmener vos enfants à l'école, mais aussi payer quelqu'un pour emmener les enfants à l'école. Donc, à ce moment-là, vous avez des services substituables, soit productif de quelque chose qui n'est pas substituable au marché. Vous parlez avec votre époux, votre épouse, c'est pas substituable à une relation marchande ou de manière très imparfaite. Et donc, ce comportement omnivore qui multiplie les activités fait qu'il y a moins de temps disponible, donc ça donne plus de valeur au temps disponible. Donc, si vous voulez, il y a le côté utilité, le côté valeur. Alors, c'est un petit peu gênant de dire le temps a une valeur, mais pourtant, pour l'économiste, il est naturel que ce temps qui est limité à 24 heures, par exemple, dans la journée, sa limitation entraîne forcément un coût d'opportunité, ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Toute heure consacrée à du repos pourrait être consacrée à une activité productive. Donc là, on arrive sur le problème, qu'est-ce qui est productif, qu'est-ce qui est utile, est-ce qu'on se soumet à une philosophie utilitariste qui a commencé en économie au XVIIIe siècle, et donc toute activité doit être mesurée en termes de son utilité, et est-ce que cette utilité est liée à la dominance de la technique? Donc on revient, si vous voulez, à toute la problématique du lien entre l'individu et sa constitution existentielle et le monde de la technique, donc ce dont on parlait à Heidegger, mais aussi un très grand philosophe chrétien qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, qui est Gabriel Marcel, qui a beaucoup parlé de ce problème, comment se situe l'individu dans une technique qu'il utilise en continu. Parce que pendant votre temps de repos, vous utilisez une technique. Vous pouvez avoir un matériel, par exemple, de repos adapté à votre corps, etc., meilleur que celui que vous auriez eu au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et donc, vous êtes en fait aussi dans une situation de substitution possible, de dépense monétaire d'un matériel adapté ou, si vous voulez, de temps passé au repos sans cette dépense matérielle, avec peut-être un peu plus de temps pour acquérir, par exemple, le repos physique. Donc, pour l'économiste, le repos, même le repos inutile, entre guillemets, d'un point de vue utilitariste, d'un point de vue de production, a un coût d'opportunité et un coût qui, souvent, se situe aux alentours de la moitié du taux de salaire des individus. Si vous gagnez, mettons, 20 euros par heure, si on vous dit que vous allez pouvoir gagner une heure, vous êtes prêt à payer 10 euros. En gros, c'est ça. Ça dépend évidemment de beaucoup de choses, hein, la valeur du temps. Donc, il y a cet élément du repos qui est ou pas utile, mais qui, de toute façon, est coûteux et donc substituable à d'autres types d'activités.
Oui, c'est le coût d'opportunité du temps.
C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, oui.
Alors, ça veut dire qu'on surveille son temps, ça veut dire qu'on calcule
exactement.
Son temps, ça veut dire
exactement.
Que le repos est calculé. Il n'y a plus de gratuité.
Exactement. Ça, c'est cette conception, si vous voulez, en économie du temps, démarre dans les années 60 à Chicago, avec un très grand économiste qui s'appelle Gary Becker. Auparavant, le temps, c'était le temps calendaire et la dynamique, c'est-à-dire les anticipations, le fait qu'une activité aujourd'hui peut modifier les conditions de l'activité demain, etc. Donc tous les problèmes de dynamique par rapport à l'équilibre statique. Et puis les problèmes évidemment d'intérêt qui relient la valeur présente à la valeur future. Et à partir de 60, on s'aperçoit à Chicago que le temps est une ressource essentielle. Peut-être qu'on s'en aperçoit parce que commence ce type de comportement social omnivore où le temps disponible est de plus en plus faible. Vous voyez, regardez les années jusqu'aux années 60. Le long des rivières, les gens pêchaient. Pêcher, c'est une activité qui utilise relativement peu de ressources monétaires, parce que vous pouvez, à la rigueur, faire vous-même votre canne, etc., mais beaucoup de temps. Or, avec la multiplication des activités, les gens ne pêchent plus parce que le temps est trop court et le temps est donc trop a trop de valeur. Donc, du coup, À partir de ces années 60, on considère le temps non plus uniquement comme quelque chose de calendaire qui passe, si vous voulez, un fleuve qui passe, mais comme une ressource qu'on peut utiliser. Alors, il y a un autre élément très, très important, dont parlent d'ailleurs de manière tangentielle souvent les économistes qui s'occupent de l'allocation du temps, qui sont relativement peu nombreux, mais un économiste anglais, par exemple, qui s'appelle Amer Mesh, enfin, d'origine anglaise, et un économiste américain, et c'est le fait que le temps est également le moment, l'endroit, si vous voulez, où se perçoit la durée. La durée bergsonienne, si vous voulez, c'est-à-dire le fait que vous vivez, le fait qu'un instant succède à un instant et que vous vivez. Et donc là, on retourne évidemment à des problèmes un petit peu de constitution existentielle, puisque le repos est un élément constitutif du repérage et de l'acuité de la durée, du fait que vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui vit des instants. Comme disait Monterland dans ses derniers carnets, il disait « il n'y a que des instants ». Non, il n'y a pas que des instants, il y a aussi une espèce d'essence. Et au cours des instants, vous vivez votre essence, si vous voulez. Et donc ça, c'est un élément qui est un petit peu lié à ces problèmes d'allocation du temps qu'ont vu les économistes de Chicago.
Claire nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Claire. Bonjour Claire, est-ce que vous nous entendez en direct sur RCF ?
Oui, je vous entends.
Eh bien, on vous écoute.
Voilà, moi je trouve ce sujet très intéressant parce que dans notre société, ne rien faire, c'est mal vu. Tu fais rien, t'es un parasite de la société. Moi, je sais que j'ai été souvent amenée à décrocher dans mes boulots parce que la répétition de toujours faire la même chose et d'avoir la sensation de pas avoir de temps pour moi quand je travaillais donner une vie professionnelle, on va dire, chaotique. Et effectivement, voilà. Donc, pour commencer, je trouve que le temps, effectivement, il est mal... Enfin, le temps, il est à nous, quoi. Le temps, il nous appartient, notre temps, ce qu'on fait de notre vie et ce qu'on fait de notre temps. Et effectivement, c'est pas du tout une perte de temps que de rester dans le silence. Et justement, on en arrive là à cette histoire du silence et du rien. Et dans notre société, c'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui savent rester dans le silence. Soit il y a la radio. Bon, moi, la radio, je l'ai quand même souvent chez moi, mais pas tout le temps. Évidemment, je vais aussi dans la nature où je vais retrouver le silence. Parce que dans la nature, d'ailleurs, il n'y a pas de silence. Et puis la télévision. Et ça, j'en vois combien des gens qui sont en maladie, qui ne peuvent pas bouger. Oh, je passe mes journées devant la télévision. Mais mon Dieu.
Ouais. Merci
voilà.
Claire.
Et,
oui.
Et vous savez que donc par rapport au temps disponible, c'était il y a quelques années un directeur de chaîne de télévision qui avait parlé du temps de cerveau disponible en parlant du temps que les gens passaient devant la télévision.
Merci Claire. Justement, on n'a pas le temps de vous écouter trop longtemps ce matin au 04 72 38 23, mais c'était très intéressant. Alain Corbin, j'aimerais vous faire réagir parce que il y a plusieurs éléments pointés du doigt par Claire. Claire qui nous dit déjà dans notre société, ne rien faire est mal vu. Je trouve ça assez révélateur aussi.
Oui, enfin, à ce propos, on a évoqué beaucoup de choses. Une chose importante au XVIIIe siècle, c'est la commodité. C'est l'invention d'un mobilier de repos. La chaise longue, puis par la suite le rocking chair, etc. Ça ira jusqu'au transatlantique. Ça date du XVIIIe siècle au départ, et c'est une chose qui a modifié très profondément le repos. Donc ça, c'est une chose. Ce qui a été aussi évoqué, là, par l'auditrice, c'est le silence. J'ai écrit un livre sur l'histoire du silence. Effectivement, entre le silence et le repos, il y a un lien évident, puisque c'est quand on se repose qu'on peut penser. Et qu'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus le silence, on le sait, à l'école, etc. Voilà quelques notions que je viens d'entendre, si vous voulez. Mais il y a dans l'histoire du repos des notions essentielles, c'est le repos dans la nature, quand même, l'invention du repos dans la nature, qui fait prendre distance par rapport à l'agitation de la société. C'est le cas de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, dans la seconde moitié, au moment où c'est l'âme sensible qui triomphe, alors à ce moment-là, il va, lui, Rousseau, par exemple, au bord du lac de Bienne et sur le lac de Bienne, se coucher dans le fond de son bateau pour à la fois trouver un abri, loin de l'agitation de la ville, mais en même temps pour se livrer à la rêverie, à une forme de détente, de rêverie. Les promenades les rêveries d'un promeneur solitaire, c'est quelque chose de nouveau qui ne sera plus quitté par les romantiques et qui ne sera plus quitté par tous ceux qui ont une météo-sensibilité qui se développe juste à la fin du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, tout ça est très confus, est très compliqué. Et en ce qui concerne la paresse, le fait que la paresse est très mal vue, mais bien sûr, la paresse est un péché capital hein, pour les chrétiens, mais surtout, c'est l'idée que la fainéantise, être un fainéant à la campagne au 18e, au 19e, et même au début du 20e que j'ai connu, du 20e que j'ai connu, il est évident que ce n'est pas bien d'être un fainéant. Et on retrouve cela même, on n'en a pas parlé, parce que le repos l'histoire du repos est absolument conditionnée au 19e siècle par la révolution industrielle. Entre le repos du savoir-faire artisanal et le repos à l'intérieur de l'usine, avec ses sifflets, avec ses disciplines, etc., il y a eu un bouleversement absolument extraordinaire. On voit naître la notion de fatigue qui date de la fin du 18e, mais qui explose, à la fin du 19e et au 20e, le surmenage intéresse à ce moment-là les psychologues, et donc c'est un tournant qu'on n'a pas évoqué, mais qui est fondamental et qui va donner, évidemment, les 3-8, les congés payés, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est un tournant qui n'est... C'était pas le cas auparavant. Hein. Ouais. Ce qui était fondé sur de l'artisanat, sur le savoir-faire, on instillait du repos dans son travail. L'artisan, l'ébéniste, moi j'ai connu ça encore à la campagne dans les années 40-50, pouvaient s'arrêter, le maçon pouvait aller boire chopine parce qu'ils étaient deux ou trois. Quelqu'un passait, on s'arrêtait pour la conversation. C'est la même chose pour le paysan qui était sur le chemin et qui s'arrêtait parce qu'il y avait un voisin qui le croisait.
Ouais, donc il y a eu une sacrée... Il y a eu une évolution.
L'utilisation du repos a été complètement modifiée par la révolution industrielle.
Allez, on va écouter de la musique tout de suite, Madeleine Vatel. Et alors, pour une fois, on va changer de style, on va écouter du jazz. Le jazz, c'est le repos. On va écouter un super ensemble qui s'appelle The Jazz Butcher sur RCF. Let's take the elevator up through the roof, and we'll step outside of time while I spin you this rhyme, and it's a nothing but the gospel truth. It wasn't a real one, Lord, that would be mine. If you lived in a place like for me, like a shield, like a man in a hungry stand. It was a lovely shade of lilac, it was a father's pride and joy. She was the first girl that he ever kissed, he was a lucky, lucky boy. It was a proper car of destiny, and that destiny came down upon Melanie Hargreaves' father's Jaguar. Mm-hmm. Melanie Hargreaves' father's Jaguar. So show me the hedge and tell me it's bedtime, cause I just can't face all the facts of this case. It's all too painful to relate. Kids from the city stole a Jaguar away, drove it down to the beach and touched it, and it might still be there today. It was a lovely shade of lilac,
nicely burned out black. And however much you want it to, it ain't never coming back. And one day I'm gonna sell up everything that I own, and I'll run away with you. And it won't be nobody's business where we are. No, no, just like Melanie Hargreaves, father's jaguar.
Madeleine.
Écoutez, je suis reposée, je vais pouvoir continuer l'émission.
Eh bien, on continue jusqu'à 10h.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Nous sommes toujours avec Alain Corbin, François Garde, et nous a rejoint notre troisième invité, Madeleine.
Oui, bonjour Père Maximilien.
Bonjour Madeleine.
Alors, vous nous avez rejoint. Vous êtes bien arrivé. Vous êtes prêt. Vous nous avez rejoint et vous êtes l'auteur de Éloge spirituel du repos, dans lequel vous posez la question de l'urgence, justement, du repos. Alors, non seulement parce que ça permet de recharger les batteries, on en parlait en début d'émission, mais aussi, pour vous, vous ne direz pas le contraire, c'est bien plus, c'est l'occasion de découvrir que le monde à un au-delà. Est-ce que pour vous, justement, les technologies n'ont pas éteint ce désir de repos dans la nature? On en parlait avec Jean-Jacques Rousseau juste avant. Est-ce que pour vous, ce repos, quel sens il a?
Mais c'est certain que pour moi, le repos, il n'est pas simplement une sorte de trêve entre deux travaux. Le repos, il est identitaire, il est structurel, il nous construit. Voilà, il nous humanise, et comme il nous humanise, il nous rend davantage l'image de Dieu, et donc davantage orienté vers Dieu. Hein, c'est la grande phrase de saint Augustin, « Je ne suis, mon âme et mon cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi ». Et il me semble que le repos physique, le repos psychologique, la détente, le loisir, tout cela est une sorte de préambule au repos spirituel, au repos, et qui nous prépare, qui est lui-même, hein, la préparation au repos éternel. Hein. Le ciel, traditionnellement, il est défini comme repos éternel, hein, et non pas comme travail éternel. Au ciel, on va se reposer, et ça sera un repos qui sera pas ennuyeux, ça sera un repos dynamique, c'est un repos qui sera fait de louanges, d'émerveillement, d'action de grâce, de reconnaissance. Et voilà, une sorte de jouissance, hein, d'accomplissement. Et c'est vrai, nous sommes faits pour cela. Et c'est pour cela que ce repos des ici-bas est important et nécessaire comme propédétique, comme préparation à cette grande rencontre. Et cette grande rencontre qu'on fera au terme de notre vie, hein, nous la commençons à travers la prière, l'oraison, la vie des sacrements, toutes ces rencontres quotidiennes avec le Seigneur, voilà, et qui sont disposées, rendues possibles En effet, par une prise de temps, hein, une prise au temps, voulue, choisie, où alors on s'arrête, où on fait silence, comme on vient de l'entendre, et où on s'unit au Seigneur, on le rencontre voilà, dans une sorte de sérénité, de paix.
Voilà, on s'arrête, on demeure. Alors, je vous fais réagir sur une phrase. C'est amusant que vous avez tous les deux cité Père Maximilien et puis Alain Corbin dans votre ouvrage, qui est une pensée de Blaise Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Alors, je vous donne la parole, Maximilien Lefébure-Dubus. Qu'est-ce que cette phrase vous a inspiré? Et puis, après, Alain Corbin, vous nous direz vous aussi, et François Garde, vous aurez certainement encore un autre regard. Alors, Père Maximilien, pourquoi cette phrase de Blaise Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre?
Alors, il me semble que cette phrase, bon, qui est vraiment très connue, qui fait partie un peu des grands classiques du thème du repos, résume bien à la fois la pensée de Pascal, mais la pensée d'un chrétien et d'un humaniste. On ne peut pas, tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'une vraie solitude, d'un vrai retour au calme, d'une vraie rencontre avec soi-même, eh bien, alors la paix, la sérénité nous est interdite. C'est à travers ce repos symbolisé par la chambre qui renvoie un petit peu à la phrase de Jésus, hein, qui dit « Allez à l'écart, hein, et reposez-vous », c'est ce qu'il dit aux apôtres. Mais tant qu'on n'a pas cette mise à l'écart, qui se fait dans une chambre, qui se fait dans un bois, qui se fait dans la nature, tant qu'on n'a pas cette mise à l'écart, il n'y a pas de rencontre avec soi-même. Et lorsqu'il n'y a pas de rencontre avec soi-même, il n'y a pas d'intériorité. Et lorsqu'il n'y a pas d'intériorité, il y a une sorte de superficialité qui est une sorte de où cette superficialité nous rend extérieurs à nous-mêmes et est complètement menacé par toutes les contraintes extérieures et dépassé par les soucis. Et on n'a pas de solution à toutes ces sollicitations, à tous ces problèmes, sans cet retour au calme, sans cette intériorité qui nous construit, qui nous rassure. Et donc je pense que tant qu'il n'y a pas de vie intérieure, tant qu'il n'y a pas de vie contemplative, tant qu'il n'y a pas de vie silencieuse, tant qu'il n'y a pas de moment de répit, l'homme se trouve accablé et dépassé, hein, par les contraintes de l'instant, du moment, la multiplicité des sollicitations qui le rend qui le conduit, on le voit aujourd'hui, à des burn-out, des fatigues, des dépressions.
Alain Corbin, sur cette pensée de Pascal.
On peut tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est fondamental dans la pensée de Pascal que c'est pour se retrouver, comme on dit aujourd'hui, et pour être soi-même, pour être en marche, aussi vers Dieu, qu'il faut fuir l'agitation, je l'ai dit, de la cour et de la ville pour Pascal. Ça, c'était absolument évident. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé dans ce repos. C'est le repos dominical. Parce qu'au fond, lorsque les pères conciliaires du Concile de Trente, et bien avant, depuis Constantin, impliquent, enjoignent un repos dominical, c'est aussi dans cette perspective-là, hein, c'est-à-dire que abandonner le travail, s'endimancher et se reposer, parce que ça permet la sanctification par l'assistance aux offices, à la messe, aux vêpres, par des lectures pieuses, etc. Le repos dominical a été absolument respecté jusque vers le premier tiers du XVIIIe siècle. Et ensuite, ça se complique un peu, ça se familialise, c'est-à-dire que ça devient un repos qui n'est pas seulement sanctifiant, mais qui l'est aussi, mais qui est un moment de retrouvailles des membres de la famille, etc., etc. C'est très compliqué, l'histoire du repos dominical, qui d'ailleurs est très mal vu des anticléricaux, et qui, à la fin du 19e siècle, quand il y a une loi de repos, la République française, par exemple, choisi les termes de repos hebdomadaire et non plus de repos dominical. Mais le repos dominical a forgé, si vous voulez, des consciences et des pratiques pendant des siècles. Donc il ne faut pas oublier ce repos dominical qui n'est pas à l'image du repos de Dieu. Ça, ce sont les Juifs, c'est-à-dire l'idée que Dieu aurait eu besoin de se reposer après la création. Ce n'est pas ça du tout pour les catholiques. C'est qu'au contraire, le dimanche est le premier jour de la semaine qui inaugure une nouvelle création, celle qui conduira au repos éternel de toute la société, si vous voulez. Ce repos éternel vient d'être très bien décrit. Ce repos éternel est un repos joyeux, c'est un repos en compagnie des anges, etc. Et que ce repos éternel le chrétien est en attente aussi de la résurrection. Ça, c'est de sa propre résurrection. Tout ça est extrêmement compliqué, on n'a pas le temps d'en parler.
C'est toujours une question de temps. François Garde, que dit l'économiste sur cette question d'intériorité et puis l'appétence pour l'extériorité, pour les loisirs, la place de l'intériorité, du silence, du calme, du repos dominical, est-ce qu'il existe encore ?
Oui, alors si vous voulez, pour l'économiste, le repos dominical ou des temps de repos longs organisés, si vous voulez, dans la vie personnelle ou dans la vie sociale, c'est un peu contraire, donc c'est une séparation des temps, on dira... Ce domaine du calendrier, mettons le dimanche, ne doit pas être, par exemple, consacré à une activité marchande, éventuellement une activité de production domestique, mais pas marchande. C'est assez contraire à l'idée que tout est substituable. Et tout est substituable pour l'économiste parce que le marché permet de substituer du temps au temps des autres, éventuellement, de manière même intertemporelle, si on veut, c'est-à-dire que les parents s'occupent des enfants, les enfants s'occuperont des parents, donc il y a des échanges de temps, si vous voulez, entre générations et décalés de 10 ou 30 ans. Le temps est substituable aussi à des achats monétaires, à des machines, à des biens qui permettent de gagner du temps. Et cette considération de la substitution, elle est évidemment augmentée avec la prévalence du marché. Donc Alain Corbin parlait de manière très intéressante du fait que la révolution industrielle a modifié tous ces éléments de temps de repos, etc. Pourquoi ? Parce que la révolution industrielle, premièrement, a indifférencié partiellement, mais enfin, a tendu à plus indifférencier les travailleurs. À la limite, dans la chaîne de Ford, si vous voulez, les travailleurs sont complètement indifférenciés. Ils ont une tâche à faire, ils n'ont pas à introduire leur subjectivité dans le fait de mettre le boulon à un certain endroit. Ensuite, la révolution industrielle a augmenté le marché, puisqu'elle a eu besoin du marché pour échanger les biens et de façon à étendre les possibilités de profit, donc et à localiser les productions, à faire des usines localisées au lieu d'avoir une production qui serait diversifiée dans des petits ateliers de village. Donc ça a poussé à l'organisation du marché et à l'utilitarisme, du coup, à la notion d'utilitarisme qui apparaît à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a la prévalence des machines. Donc, entre le premier terme et le troisième terme, l'indifférenciation des individus et le problème des machines, il y a la réflexion de Bernanos, par exemple, dans La France contre les robots. Il se demande, de manière un peu confuse, exactement comme je considère, Heidegger interroge la technique de manière assez confuse, parce qu'il n'a aucune notion, si vous voulez. Il a des notions historiques, mais peut-être pas très précises, et il a très peu de notions économiques. Et de la même façon, Gabriel Marcel l'interroge de manière un petit peu mystérieuse dans son journal métaphysique, mais pas de manière très précise. On n'arrive pas à retirer véritablement quel est le problème des machines, en quoi les machines vont modifier notre vécu existentiel du temps. Et donc voilà, si vous voulez, tout ça c'est très lié effectivement à des changements historiques. Et la séparation des temps, c'est-à-dire dire ce temps va être un temps de repos, est un peu contraire à l'idée d'optimisation, puisque en séparant le temps, vous interdisez pendant un certain temps à optimiser en utilisant ce temps de repos, par exemple, pour vous occuper des enfants. Vous dites aux enfants, ma mère me disait, elle avait un grand-père qui était prof de maths, et elle disait, il fermait sa porte à clé, il n'était pas question, pendant qu'il faisait des maths, de venir le déranger. C'est assez... bon. Inversement, par exemple, un grand physicien japonais disait « J'ai toujours admiré mon père d'être toujours présent quand je lui demandais quelque chose, même quand il était en train de travailler. » Donc, cette séparation des temps est un peu contraire, si vous voulez, à l'idée d'optimisation.
On a Marie qui nous a rejoint au standard au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Bonjour Maker et bonjour les personnes présentes. Merci pour cette émission intéressante, beaucoup. Mais je ne sais pas si je vais être maintenant avec tout ce que je viens d'entendre. Mais moi, je me suis dit tout de suite le mot diktat, le diktat qui empêche le repos. Il y a toutes sortes de diktats. Aujourd'hui, enfin l'aujourd'hui que je connais, le diktat du travail, le diktat de la formation et de l'information continue, y compris pour la culture, y compris pour la distraction, y compris pour le repos, le diktat du sport, le diktat de la réalisation de soi par toutes les techniques actuelles du psychologique au spirituel, le diktat des loisirs. Et finalement, le loisir et le repos finissent par devenir un diktat. Et je me dis, que, sans compter tous les autres, et je me dis que l'oisiveté, elle n'a vraiment pas du tout la raison d'être. Et curieusement, le diktat d'être avec les autres, et tout ça, ça, finalement, paradoxalement, ça aboutit curieusement à une forme d'individualisme dans la société, et que finalement, on a des similirelations, hein, le diktat de la relation, il faut avoir des amis sur le net et sur la toile et tout. Et finalement, on n'a pas de vraie relation, parce que je crois, comme quelqu'un l'a dit, on n'a pas une relation avec soi-même qui soit vraie, donc on ne peut pas avoir une relation qui soit vraie avec les autres. Mais ça, je pense que ça a été dit. On aboutit à ça et c'est terrible. Les petits-enfants, moi j'ai vu, je me suis occupée d'enfants, on commence déjà par les enfants, par les conditionnés. Le mercredi qui leur est donné, soi-disant, pour pouvoir être un petit peu... on le leur organise du matin jusqu'au soir, surtout pour qu'il n'y ait pas un temps de vie
qu'ils apprennent. Et on va continuer d'en parler avec nos invités. Merci, c'était très intéressant, Marie, dans Je pense donc j'agis. Maximilien Lefébure du bus, je vais vous faire réagir peut-être, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure du temps, de ces temps de repos... ça ressemble un peu à une forme de liberté. Le temps libre, c'est quelque chose dont on parle souvent. Est-ce que le temps libre est vraiment libre, Maximilien ?
Alors, je pense que c'est un terme un peu équivoque, temps libre. Qu'est-ce que ça veut dire, là, un temps qui est libre ? Est-ce que c'est un temps pour me libérer ? Ou c'est un temps qui me libère du travail, qui me libère des contraintes ? Je pense qu'un véritable temps libre, c'est un temps qui me grandit. Et qui me libère. Mais si je prends mon temps libre, si j'utilise mon temps libre pour, je sais pas moi, faire un sport à risque, et je suis père de famille, eh bien je pense que ce temps ne m'humanise pas, ne grandit pas, parce qu'il est contraire à mon être, à ma dignité, à ma mission. Si je prends mon temps libre l'été, je suis, je sais pas, près de la mer ou dans la montagne, et j'utilise mon temps libre à être sur mon écran parce que et sans sortir de mon chalet ou de ma maison, bah ce temps il est libre mais il me libère pas. Donc je pense que c'est un temps qui est un petit peu c'est une expression un peu piégée, temps libre, et qui correspond pas, je trouve, à grand chose, si ce n'est si on le lit, on l'analyse comme un temps qui me grandit, qui m'humanise. Voilà un peu mon approche.
Père Maximilien, vous semblez dire que finalement, pour le chrétien, le repos, c'est un acte responsable.
Complètement, oui. En fait, le repos, c'est vraiment le couronnement de notre activité. Ce n'est pas une non-activité, c'est une activité à part entière. Saint Augustin dirait que c'est une activité suréminente. Et c'est pour ça que le repos de Dieu, le septième jour où Dieu se repose, ce n'est pas une activité où il chôme, c'est une activité par excellence, suréminente, qui est supérieure justement aux activités de création. Et ça donne vraiment un ordre, une sorte de logique, hein, et qui nous fait comprendre la dignité du repos, et donc du repos dominical, qui est le transfert du sabbat au christianisme par le dimanche. Le repos est vraiment une activité par excellence que je choisis, qui me responsabilise et qui est pour moi l'effet d'un acte de liberté. Ce n'est pas un acte improvisé, ce n'est pas un acte spontané, ce n'est pas un acte nécessaire comme parce que je veux je frôle le burn-out. C'est un acte que je choisis, que j'anticipe et qui me grandit. Voilà un peu cette approche qui me semble l'approche chrétienne.
Alors, de quelle manière le Christ s'est reposé, puisque vous penchez sur les Écritures? Comment est-ce que le Christ, lui, se repose? On a le sentiment qu'il est quand même très occupé, très souvent avec la foule.
Oui. Il est très occupé. Alors, très occupé pendant les 3 années de vie publique. Mais pendant ces 3 années, on a quand même des indices qu'il se repose. Il se repose avec ses amis à Béthanie, avec Lazare, Marthe et Marie. Il se repose avec ses disciples. Il se repose bien sûr dans la barque puisqu'il dort. Ça, c'est la scène incroyable hein, de la tempête apaisée où il dort. Et donc, il justifie notre sommeil et nous dit, voilà, il est bon de dormir. Il se repose à une scène merveilleuse qui est la scène de la rencontre avec la Samaritaine où il arrive à midi, à l'heure où il fait le plus chaud, dans ce petit village de Samarie. Il est fatigué, dit l'évangéliste, et il s'assoit sur le bord d'un puits. Il rencontre cette pauvre femme là, qui a une vie désordonnée. Et Jésus dit, il est fatigué. Et saint Augustin commente cela merveilleusement en disant que c'est pour toi, c'est pour nous que Jésus est fatigué. Hein. Il nous dit, saint Augustin, la force du Christ t'a créé, la faiblesse du Christ t'a recréé. On a besoin de voir que notre Seigneur se fatigue, se repose et justifie ainsi notre repos. Et d'ailleurs, il va le dire à ses apôtres 2 fois dans l'Évangile. Il invite et même il commande à ses apôtres de se reposer au début de sa vie publique. Et à la fin de sa vie publique, hein. Au début, c'est au bord du lac de Tibériade. Ses apôtres reviennent de mission et ils les accueillent. Ils sont très enthousiastes de leur mission. Et Jésus, on peut dire un peu les calme, les remet un peu à leur place et leur dit cette phrase que j'ai évoquée tout à l'heure: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Hein, il est vraiment c'est
Père Maximilien
une demande.
De...
Ouais.
Oui.
Oui.
De quoi faut-il se priver pour trouver le repos?
Pour trouver le repos, il faut se priver de tout ce qui est un peu qui nous externalise, tout ce qui nous éclate, qui nous disperse. Hein. Alors, on est obligé, hein, en raison de notre vie quotidienne, d'avoir des relations avec l'extérieur, avoir de l'information, mais éviter de tendre vraiment à se rassembler à nous rassembler et donc nous priver de tout ce qui serait une multiplication qui engendre une dispersion et donc un éclatement de nous-mêmes et qui est lequel est vraiment épuisant.
Alain Corbin, vous ne direz pas le contraire pour vous, le repos en un mot?
Mon repos en un mot, c'est effectivement ce qui vient d'être dit, hein. Ne pas se disperser, se concentrer. Mais on n'a pas dit un mot d'un repos qui est très très fréquent, c'est le repos thérapeutique. Hein. Combien de gens sont condamnés au repos parce qu'ils sont malades? Alors ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un grand moment, la première moitié du XXe siècle, c'est le repos thérapeutique dans les sanatoriums. Le sanatorium, c'est un temple du repos. Mmh. C'est un repos enjoint, c'est un repos calculé, c'est un repos...
Je crois que Melchior Gormand, justement, va l'aborder dans la deuxième partie.
Oui. Etc. On n'a pas le temps de parler de ce sanatorium.
Merci
à l'encore. Dans la deuxième partie. Merci beaucoup. François Garde, merci infiniment aussi. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie. Merci à tous les trois d'être intervenus dans cette émission. Passionnant, merci à vous.
Une chose supplémentaire,
oui,
intéressante, c'est que ce temps libre, il est apparu au moment de la grande récession aux États-Unis. Les gens ont eu du temps libre puisqu'ils étaient au chômage et tout. Ce qui est très curieux, c'est qu'ils l'ont utilisé pas du tout comme on le pensait, mais surtout à dormir. Donc ça veut dire que le temps libre, il faut apprendre à l'utiliser. Et si on n'apprend pas, eh ben on ne l'utilise pas finalement.
Merci François Garde d'avoir été avec nous. Merci Maximilien Lefebvre Dubus également depuis les studios d'Alençon et Alain Corbin qu'on
merci
a entendu.
Alençon.
Merci Madeleine Vatel. À bientôt.
Merci à vous. Je vous laisse avec le sommeil. C'est une bonne transition avec ce que disait François Garde.
Le sommeil, on va se préparer pour la sieste dans un instant avec vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.